France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire fascinante d'un homme fascinant, le footballeur autrichien Matthias Sindelar, celui qui a osé tenir tête à Hitler. Ce très court portrait propulse Sindelar au rang de héros politique. Doublé d'un talent de footballeur exceptionnel, le joueur numéro 1 des années 30, surnommé d'ailleurs le Mozart du football, le génie autrichien du ballon rond, mais également le social-démocrate pacifiste engagé dans l'entre-deux-guerres. A-t-il été assassiné ? Toujours est-il que le 23 janvier 1939, quelques mois après avoir osé marquer un but contre l'Allemagne nazie, dans un match censé entériner la soumission de l'Autriche natale au Reich, il est retrouvé mort avec sa compagne dans un appartement de Vienne. Accident domestique, assassinat politique, suicide, le mystère aujourd'hui demeure. Mais l'histoire de Sindelar est bien plus qu'un fait divers. Elle nous plonge dans une époque pas si éloignée de la nôtre, lorsque l'Europe était en proie à la division et que les sociaux-démocrates tentaient de faire barrage au mouvement fasciste et antisémite. Elle nous fait redécouvrir également l'âge d'or de Vienne la Rouge, laboratoire vivant de l'utopie socialiste, et nous montre, une fois de plus et selon l'expression consacrée, à quel point les enjeux du foot dépassent les enjeux du sport. Notre invité aujourd'hui, Olivier Margot, rédacteur en chef du journal L'Équipe pendant 25 ans. Il est l'auteur du roman « L'homme qui n'est jamais mort » paru aux éditions Jean-Claude Lattès et qui retrace la vie et les derniers jours de Sindelar. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Bettina Lioret. Rédaction en chef, Franck Cognard. Coordination, Rebecca Denante. Réalisation, Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Vienne, 3 avril 1938. Des dizaines de milliers de personnes se pressent sur les gradins du stade Prater pour assister à un événement historique, le grand match de football de la réunification entre l'Allemagne et l'Autriche. Trois semaines plus tôt, le 12 mars 1938, Adolf Hitler marchait sur Vienne et déclarait fièrement l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche. Pour légitimer cette violation sans complexe du droit international, le Führer décide d'organiser un référendum dans lequel les Autrichiens, qui lui sont plutôt favorables, devront approuver l'unification des deux pays. Pour assurer l'issue du scrutin, la propagande nazie a misé sur ce match de football, justement, car il est censé symboliser la fraternité entre les deux nations, ou plutôt, la soumission du peuple autrichien. Depuis des jours, les soldats de la Wehrmacht placardent des affiches aux quatre coins de la ville pour promouvoir ce match. Le dernier avant la fusion des deux équipes au sein de l'équipe du Reich. Ainsi, en ce 3 avril 1938, la Mannschaft, l'équipe allemande, affronte la Wunderteam, l'équipe nationale autrichienne, portée par son illustre capitaine et attaquant adulé, Matthias Sindelar. Dans le stade, l'atmosphère est électrique. 60 000 supporters, pour la plupart autrichiens, trépignent d'impatience au milieu des drapeaux nazis. Partout, des soldats de la Wehrmacht, armés jusqu'aux dents, tiennent en laisse des chiens loups, prêts à intervenir. À 16h, l'arbitre siffle le début de la partie. Les premières passes s'enchaînent, à l'avantage de la Wunderteam, qui sans trop forcer démontre sa supériorité sur l'équipe allemande. Dans les gradins, les supporters autrichiens jubilent et se laissent submerger par un sentiment de fierté nationale qu'ils avaient récemment mis de côté. Mais très vite, des rugissements d'indignation soulèvent la foule. À chaque fois qu'une occasion de marquer se présente, les joueurs de la Wunderteam semblent hésiter. Ils tirent sur le côté ou reviennent sur leurs pas. Sindelar lui-même, oui, et même lui, à deux doigts de faire basculer le score, envoie la balle hors champ, presque volontairement. Dans les tribunes, c'est l'incompréhension. Quelque chose ne tourne pas rond. Comme l'explique Wolfgang Mathertaler, historien et biographe de Matthias Sindelar, dans un documentaire de la BBC intitulé « Fascisme et football ».
Des rumeurs se sont mises à circuler. On a pensé que l'équipe d'Autriche n'était pas autorisée à marquer parce que Sindelar a eu de très nombreuses opportunités et à chaque fois, il ne faisait rien. Il détournait le regard, secouait sa tête comme pour dire non.
En réalité, les Allemands ont tout prévu, même le score, 0-0. Et peu à peu, la foule comprend que son idole a les pieds liés. Les spectateurs sont écœurés, les joueurs abattus, presque résignés. Mais à la 70e minute, Sindelar intercepte un ballon vagabond, marque une pause et lance un regard à ses coéquipiers, un sourire en coin, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors, l'espace d'un instant, tout le stade retient son souffle, les yeux braqués sur l'avant-centre de l'équipe d'Autriche qui, après un bref instant suspendu, s'élance, plus rapide que jamais, tire et marque contre l'Allemagne.
À la deuxième mi-temps, contre toute attente, il a marqué un but. Et puis, son coéquipier et meilleur ami, Karl Sesta, en a mis un deuxième. Après quoi, ils sont allés se pavaner en dansant sous les tribunes VIP qui abritaient les hauts dignitaires nazis. C'était l'expression d'une confiance incroyable, celle de deux jeunes hommes qui se dressent face au puissant Reich allemand. C'était un geste impensable, un geste que les nazis n'ont jamais pardonné à Sindelar.
Du jour au lendemain, Matthias Sindelar, génie du football, idole des Viennois, devient celui qui a humilié l'Allemagne nazie. Mais comment ce gosse miséreux des faubourgs de Vienne est-il devenu une légende, et bien avant sa geste glorieuse ? Retour sur un destin brisé par l'histoire. Le 21 août 1917, le soleil se couche sur Vienne, mais la chaleur accablante de l'après-midi peine à retomber. Au sud de la ville, dans le quartier pauvre et surpeuplé de Favoriten, où s'entassent des ouvriers, Matthias Sindelar, 14 ans, traverse hors d'haleine les ruelles sombres et poisseuses qu'il connaît comme sa poche. Il est en retard pour le dîner, alors il accélère. C'est là qu'il vit, au 75 de la Kellenstrasse, depuis que ses parents ont quitté 13 ans plus tôt leur Moravie natale, une province de l'Empire austro-hongrois. Avant d'être appelé sur le front, son père, Jan, s'épuisait 15 heures par jour à la briqueterie où il était payé en briques. Sa mère, Marie, travaille comme blanchisseuse pour un salaire de misère. Ce soir-là, Matthias apprend la terrible nouvelle. Son père est mort sur le champ de bataille. Assommé par l'information, l'unique garçon de la fratrie comprend qu'il va devoir travailler pour soutenir sa famille. Dans les jours qui suivent, il quitte l'école pour devenir serrurier, tout en nourrissant d'autres ambitions. Il sera footballeur. Évidemment, autour de lui, personne n'y croit. Mais l'un de ses professeurs, ancien footballeur, a remarqué, lui, la finesse de son jeu. Et qu'importe s'il est maigre comme un clou, c'est déjà un bon technicien. Il vient d'ailleurs de lui accorder une chance inespérée, comme le raconte Matthias Sindelar lui-même des années plus tard.
Un jour, il y eut même un petit match contre l'équipe réserve de la Hertha. À cette époque, l'ancien responsable du club m'avait déjà remarqué. Lors de ce match, je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais dévoilé mes capacités en matière de dribble et j'avais marqué pas moins de 5 buts. Vous pouvez imaginer combien le gamin de 15 ans que j'étais était fier quand après le match, M. Phébus m'a demandé si je ne voulais pas intégrer l'équipe de formation de la Hertha. Et vous pouvez imaginer combien je le voulais.
Dès le début de l'année 1918, Matthias entame donc son apprentissage au Hertha Vienne. Mais la chute de l'Empire se fait ressentir dans l'ancienne capitale et les conditions de vie se dégradent, de jour en jour.
Il y avait la fameuse maladie de Vienne, la tuberculose, qui touchait 10 à 15% de la population. Et puis la syphilis, les carences, les maladies, etc. La population était épuisée et affamée. La grande, la brillante Vienne était en pleine déliquescence. Ce n'était plus qu'une petite ville, toute grise, peu attrayante et vraiment très très pauvre.
Sur le terrain, c'est la désillusion. Sur 23 matchs joués avec la Hertha, Sindelar ne marque que 4 buts. Parallèlement, il est licencié pour des raisons économiques par les frères serruriers qui l'employaient. Et pour ne rien arranger, il se blesse méchamment au genou. Mais alors que l'avenir semble s'obscurcir à nouveau pour le jeune footballeur et les 2 millions de Viennois en proie à la misère, un mouvement politique utopiste sans précédent s'enclenche, qui s'apprête à transformer la capitale déchue en un laboratoire unique au monde, celui de la social-démocratie. Février 1921, hôpital central de Vienne, Mathias, qui vient d'avoir 18 ans, est en convalescence. Après avoir longuement hésité, il a finalement décidé de se faire opérer du genou. Et l'opération, heureusement, se passe bien. Entre deux séances de rééducation, il suit de près les actualités locales et ma foi, les nouvelles sont bonnes. Depuis l'éviction des conservateurs antisémites de la mairie, les sociodémocrates font souffler un vent de révolution sur Vienne. Porté par les mouvements ouvriers, rejoint par de nombreux juifs issus de la bourgeoisie, ils décident de s'attaquer au problème du logement et font construire de gigantesques cités ouvrières. Des travaux sont lancés pour faire sortir de terre 63 000 appartements confortables pour 220 000 personnes à faible revenu. Autour, des crèches, des centres de santé et des bibliothèques sont mises à disposition des ouvriers. Les soins médicaux deviennent gratuits, les cinémas et les théâtres subventionnés se multiplient et le sport se démocratise chez les travailleurs, encouragés à faire de l'exercice physique. Le tout financé par des impôts prélevés sur les plus grandes fortunes. Une vraie politique de gauche à faire rêver aujourd'hui tous les socialistes. Vienne l'impériale est alors renommée Vienne la Rouge, la Mecque du socialisme démocratique. À peine remis sur pied, Sinelar est invité à rejoindre l'Austria Vienne, le club favori des classes moyennes, qui vient de remporter son premier championnat et sa deuxième Coupe d'Autriche. Dès lors, il se révèle et s'impose comme le joueur atypique de l'équipe. Oui, son apparence chétive, ses origines modestes étonnent. Mais c'est surtout son jeu inimitable et l'habileté déconcertante dont il fait preuve qui marque les esprits et qui lui valent immédiatement l'admiration du grand public. En 1924, 1925 et 1926, Mathias Sindelar mène son équipe à la victoire en Coupe d'Autriche. En 700 matchs, il marque 600 buts et devient ainsi le chouchou des Viennois, Cindy comme l'appelle affectueusement la presse. Désormais, il peut subvenir aux besoins de sa famille et se concentrer sur son jeu. Un soulagement que décrit Olivier Margot dans son livre « L'homme qui n'est jamais mort ».
La mère et les sœurs de Mathias ne sont plus dans la crainte du lendemain. Débarrassé de ce fardeau qui a hanté tant de nuits, Mathias joue comme il n'a jamais joué. Sur un terrain, on l'identifie à son élégance, à ses feintes de prestidigitateur, à ses cheveux blonds filasses, au bandage blanc en serrant son genou droit, à sa manière très personnelle de se placer là où l'adversaire n'est pas. Bientôt, des intellectuels avanceront que ce jeune homme cherche à donner au football une forme qui correspond au désir de l'âme.
Malgré son nouveau statut, Sindelar reste fidèle à son milieu. Dès qu'il le peut, il se mêle et participe aux réunions des mouvements ouvriers, des sociodémocrates. Il soutient les associations d'éducation des travailleurs et devient un modèle pour sa génération. Un footballeur de génie, fidèle à ses principes et engagé auprès de sa communauté. 28 septembre 1926, Prague. Pour la première fois de sa vie, Mathias joue dans l'équipe nationale d'Autriche, dirigée par Hugo Meissel.
Le début du match est obscur et acharné. Les Tchèques prennent pour cible cet avant-centre filiforme qui passe son temps à éviter les coups. Sindelar est un avant-centre qui provoque la perplexité. Il ne possède pas cette dimension physique qui caractérise les avants de pointe. Il ne frappe jamais de la tête. Sa tête ne lui sert qu'à penser. En revanche, il dribble comme personne, sait s'infiltrer et se faire oublier. À la 25e minute, le ballon lui parvient enfin et Mathias Sindelar arrête le temps. Il est en apesanteur. Il caresse la balle, il sait que le but est déjà marqué alors que le tir n'est pas encore déclenché. Mathias Sindelar a ouvert le score. Peu démonstratif, il porte seulement sa main au visage et un mouvement furtif.
C'est ainsi que Cindy marque le premier des 27 buts qu'il inscrira en 43 sélections. Quelques jours plus tard, il en marque deux autres dans une victoire écrasante contre l'équipe de Suisse et participe à quelques succès historiques, dont un savoureux 6-0 contre l'Allemagne et un 8-2 contre la Hongrie. La Wunder Team, l'équipe merveilleuse, est née. Et peu à peu, Et malgré sa modestie légendaire, Sindelar se fait un nom à l'international et devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais si les Autrichiens se passionnent pour le football et admirent le joueur, nombre d'entre eux voient d'un très mauvais œil les bouleversements politiques en cours dans l'ancienne capitale impériale. Et pour cause. Si les conditions de vie des prolétaires de la capitale s'améliorent considérablement, la grande majorité des Autrichiens est-elle confrontée au chômage de masse et à de graves difficultés économiques ? Résultat, des milliers d'Autrichiens rejoignent le camp de la droite chrétienne. Pour eux, les responsables de cette dérive idéologique, ce sont les sociaux-démocrates, qu'ils voient comme des bolcheviks, des rouges. Sur la pelouse également, les choses se corsent. L'équipe de Cindy enchaîne les défaites. En février 27, la Wunder Team est écrasée par la Hongrie, 6-0. Une autre équipe sublime en devenir. Puis perd à Vienne, 5 semaines plus tard, contre la Tchécoslovaquie, 2-1. Mathias Sindelar n'a pas réussi à égaliser. Mais c'est dans la rue que la situation va progressivement dégénérer. Juillet 1927, Sindelar apprend dans les journaux l'assassinat de 2 Viennois par des militants des Heimwehren, une organisation fasciste paramilitaire. Quelques jours plus tard, les responsables sont acquittés. Les ouvriers se soulèvent massivement avant d'être violemment réprimés par les forces de l'ordre. Bilan, 99 morts. 2 ans plus tard, le même groupuscule armé met à sac un café juif dans un quartier proche de Favoriten. Cindy et ses amis se rendent à l'évidence. Les socialistes ne sont pas les seuls ennemis de la droite réactionnaire qui gouverne l'Autriche. Les juifs, qui étaient relativement protégés par les Habsbourg, sont devenus leur cible de prédilection. Voyant l'antisémitisme se propager, Mathias s'inquiète pour ses proches. Son entraîneur, Hugo Meissel, certains de ses coéquipiers à la Hertha Wien, une grande partie de ses amis sont juifs. Les autres sont ouvriers, artistes, sociodémocrates, en tout cas des ennemis aux yeux des fascistes, désormais majoritaires dans son pays. En 1929, le krach boursier plonge l'Autriche dans une crise économique sans précédent. De son côté, après avoir essuyé de nouvelles défaites, Mathias Sindelar se retrouve écarté de la sélection nationale. Impuissant, désœuvré, il assiste en 1932 à la prise de pouvoir d'Engelbert Dollfuss à la tête du pays, qui met en place un État autoritaire et corporatiste. Sindelar ne le sait pas encore, mais il ne vivra plus jamais en démocratie, et le pire est à venir.
Take my union gun. Gonna end this world of slavery before this war is won. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists are bound. You fascists about to lose, you're about to lose, you fascists about to lose.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Matthias Sindelar, l'homme qui a tenu tête à Hitler.
France Inter, Affaires Sensibles.
Malgré les grandes difficultés auxquelles nous faisons face, l'Autriche s'efforce de garder la position que lui confère son histoire et sa situation géographique.
Matthias Sindelar et ses amis se méfient de ce Dollfuss, ce petit homme trapu, sans grand charisme, qui entend lutter à la fois contre les sociaux-démocrates et contre les nazis, une sorte de centriste qui se présente comme un rempart. Il a fait interdire le Parti national-socialiste, certes, mais cela ne suffit pas à l'anéantir. En réalité, comme l'explique le documentaire Les Secrets de l'Histoire, diffusé sur Arte, les SS autrichiens se sont retranchés dans la ville de Linz, où sont enterrés les parents du Führer. Profitant de l'appui financier et logistique de l'Allemagne, ils s'organisent et se structurent sous le commandement d'Ernst Kaltenbrunner, un Autrichien qui deviendra bientôt le chef du renseignement du Troisième Reich, puis le numéro 2 des SS en Allemagne, et qui finira au bout d'une corde après le procès de Nuremberg. Rapidement, de nombreux notables de la haute société autrichienne viennent grossir leur rang. C'est le cas d'Arthur Seyss-Inquart, futur commissaire du Reich, qui sera bientôt chargé de liquider les Juifs des Pays-Bas, et d'Adolf Eichmann, qui organisera la déportation et l'extermination de milliers de Juifs à travers l'Europe. Des hommes politiques siégeant au Parlement rejoignent également les rangs des SS, pendant qu'en Allemagne, 15 000 réfugiés autrichiens se préparent au combat. À Vienne, on se rassure comme on peut. Après tout, Dollfuss s'est engagé solennellement à garantir l'indépendance et la souveraineté de l'Autriche. Oui, mais pour combien de temps ? Un soir de février 1933, Matthias Sindelar ramasse médusé un tract sur lequel figure l'inscription suivante. Viennois allemands, rejoignez Hitler. Seul Hitler peut vous sauver des rouges et des noirs. La veille, galvanisé par la prise de pouvoir du Führer et par ses discours sur la formation d'un grand Reich, des milliers de nazis autrichiens avaient barré l'accès de l'université de Vienne aux étudiants juifs et multiplié les affrontements de rue. Pendant ce temps, le chancelier autrichien s'inquiète des aspirations expansionnistes d'Hitler, autrichien de naissance, rappelons-le. Dollfuss se tourne alors vers Mussolini. Le Duce promet son soutien militaire au cas où Hitler tenterait d'annexer l'Autriche, mais il exige, en contrepartie, l'anéantissement du mouvement social-démocrate en Autriche. Dollfuss s'exécute.
Dans la nuit du 11 au 12, la police de Linz reçoit l'ordre de perquisitionner l'hôtel Schiff. Quartier général des sociaux-démocrates. Échange de coups de feu. À Vienne, les militants socialistes paramilitaires répliquent à cette provocation du pouvoir en coupant l'électricité. La grève générale est proclamée. Le gouvernement riposte en décrétant l'état d'urgence. C'est la guerre civile. À Vienne, les usines sont occupées. Les cités ouvrières deviennent des bases de repli où se retranchent les combattants sociaux-démocrates. Les combats durent 4 jours. Pendant lesquels les canons pilonnent les refuges des sociaux-démocrates, par ailleurs mal armés. La guerre civile fait 1000 victimes et 5000 blessés. Les décisions du pouvoir austro-fasciste consternent les gouvernements européens et le prolétariat du monde entier. La totalité des organisations socialistes est dissoute. Les journaux du parti sont interdits.
Pour Matthias et ses camarades, impuissants, c'est la douche froide. Heureusement, la Coupe du Monde de 1934 se profile en Italie. Et l'événement devient l'occasion rêvée pour la Wunderteam d'infliger une défaite cinglante aux fascistes de toute l'Europe. De son côté, Mussolini se méfie de cette équipe autrichienne qualifiée en demi-finale contre l'Italie et qui a récemment connu une séquence de 14 matchs sans défaite. Or, Mussolini est prêt à tout pour remporter cette Coupe du Monde à domicile. Comme en témoigne cette archive, extraite des documentaires de la BBC « Fascisme et football ».
Avant le match, Mussolini a eu un rendez-vous avec l'arbitre suédois Eklind. Et d'après notre coach, Hugo Meisel, cet arbitre a été corrompu par Mussolini. Il a même joué pour les Italiens. Alors que j'avais adressé une longue passe sur l'aile droite à Karl Ziszek, l'arbitre a lui-même renvoyé le ballon de la tête, le rendant à nos adversaires. C'était terrible. Incroyable.
Comme Matthias Sindelar, Josef Bican, son coéquipier, rentre à Vienne empli d'amertume. Le Duce remporte sa Coupe du Monde. Le fascisme triomphe sur le terrain de sport et Cindy n'est pas au bout de ses peines. Trois semaines plus tard, l'Autriche bascule dans l'inconnu. Dollfuss est assassiné, comme le raconte des années plus tard son successeur, Kurt von Stützling, sur le RTF.
Le complot contre Dollfuss et les cabinets autrichiens était incontestablement organisé en Munich par des hommes politiques d'Allemagne qui jouaient un certain rôle dans le Parlement de Berlin. Et Dollfuss était connu comme le protagoniste de l'idée de l'indépendance de l'Autriche et aussi de l'idée d'absolue loyauté aux traités internationaux. L'idée était d'arrêter tous les cabinets et Dollfuss a envoyé tous les membres de ce cabinet et le complot était directement directé contre Dollfuss. Il était une victime préméditée.
Schuschnigg a beau s'opposer aux ultimatums d'Hitler qui exigent la nomination d'un ministre de l'intérieur nazi, le Führer et son idéologie antisémite ont déjà conquis les Autrichiens. Contraint de démissionner, il cède son fauteuil à Arthur Seyss-Inquart, qui sort de la clandestinité et qui ouvre les portes de l'Autriche au Führer le 15 mars 1938.
L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Le régiment des SS qui forme la garde du Führer arrive à Vienne pour organiser l'entrée d'Hitler dans cette ville. La Gestapo fait son œuvre. Les arrestations s'effectuent sur un rythme rapide. Tous les postes administratifs et politiques sont occupés par les nazis. L'armée autrichienne est placée sous le haut commandement du Führer. La phrase « un peuple, un Reich, un Führer » est le mot d'ordre du jour. La première partie du programme qui permettrait de réaliser la plus grande Allemagne telle que l'a définie Hitler dans Mein Kampf a été accompli avec une soudaineté et une brutalité inouïe.
Sindelar constate, effaré, la ferveur avec laquelle les Autrichiens acclament l'armée d'occupation. Dans son discours, Hitler rebaptise l'Autriche, qui devient l'Ostmark, c'est-à-dire les marches de l'Est. Et il enjoint les Allemands, comme il les appelle désormais, à devenir le rempart oriental du Reich. Les Autrichiens vont largement dépasser ses attentes, comme le raconte le grand Stefan Zweig dans son dernier livre « Le monde d'hier ».
On laissait libre cours à tous les désirs de vengeance privée. Des professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. De pieux vieillards juifs étaient traînés au temple et contraints par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier en chœur « Heil Hitler ». Dans les rues, on attrapait comme des lièvres quantité d'innocents qu'on menait curer les lieux d'aisance dans les casernes des SA. De tels excès avaient pu se produire il y a des siècles dans les guerres du Moyen-Âge, à l'occasion des pillages des villes. Ce qui était nouveau, c'était le plaisir éhonté de tourmenter en public, de martyriser les âmes, d'infliger des humiliations affinées.
Dans les jours qui suivent, les Autrichiens plébiscitent massivement le référendum qui légalise l'annexion et applique sans broncher les mesures de terreur à l'encontre des opposants du Reich. Comprenez, les communistes, les syndicalistes, les sociodémocrates, mais aussi les conservateurs et les catholiques, en gros, tout le monde, sauf ceux qui ne disent rien. Kaltenbrunner, qui dirige désormais les organes de sécurité, fait arrêter 20 000 personnes et organise les premières déportations vers Dachau, deux semaines seulement après l'annexion. L'équipe autrichienne de football devient allemande. Sindelar tire alors un trait sur sa carrière et rachète le café d'un ami juif. Et sans surprise, il est rapidement courtisé par l'entraîneur de l'équipe de la Grande Allemagne, Josef Herberger. Mais Sindelar refuse. Une fois, deux fois, non. Pas question de faire gagner le Troisième Reich. Matthias ne deviendra pas un malgré nous version football. Avril 1938, pendant le match de la réunification organisé par les nazis et dont nous parlions au début de ce récit, Sindelar marque contre l'Allemagne, donc. Ultime provocation, il se jette et glisse genou à terre sous les tribunes des officiers d'Hitler. Aux yeux de tous, Cindy devient celui qui tient tête à l'envahisseur. Huit mois plus tard, alors qu'il avait définitivement renoncé au football, ses compagnons de l'Austria Vienne lui demandent de les accompagner en Allemagne pour affronter le Hertha de Berlin. Cindy hésite. Qu'adviendra-t-il s'il marque à nouveau ? Sa décision, il la prend le 10 novembre 1938. La veille, dans tout le Reich et jusque dans les ruelles de Favoriten, les SS et les Autrichiens s'en sont pris aux Juifs. Leurs maisons, leurs commerces ont été saccagés, des centaines de synagogues ont été incendiées et rien qu'à Vienne, 91 Juifs ont été assassinés. Affligé par ce déchaînement de violence, Matthias refuse de rester les bras croisés. Alors c'est décidé, il ira en Allemagne et il jouera contre Berlin, quoi qu'il en coûte. Le 26 décembre, il enfile ses crampons pour la dernière fois de son existence et s'avance sur la pelouse aux côtés de ses coéquipiers. Dans son ouvrage, Olivier Margot raconte
« Le Mozart du football s'empare de cet instant ténu et dans la fuite du jour fait une passe décisive puis marque un but mémorable. Cette noblesse de l'action, c'est la victoire de l'intégrité. En sortant du vestiaire, les visages des dirigeants et de quelques officiers sont pâles comme la nuit. Il comprend qu'il s'est laissé aller à une attitude romanesque, qu'il n'aurait pas dû, mais à Berlin, il n'a pas pu résister. »
Le score, 2-0, est une humiliation pour les Allemands. Celle de trop, sans doute. Un mois plus tard, après une soirée entre amis, Sindela rejoint sa compagne, Camilla Castoglia, chez elle. Le lendemain, à 15h, il n'est toujours pas derrière le comptoir de son petit café. Alors on envoie quelqu'un chez Camilla. On sonne, on frappe, on enfonce la porte pour finalement trouver les amants enlacés sur le lit, inanimés. Pour les SS, chargé de l'enquête, le couple a été empoisonné au dioxyde de carbone. Autrement dit, une vulgaire fuite de gaz, un accident commun pour l'époque. Mais pour les proches de Cindy, il est clair qu'on a voulu se débarrasser du joueur. Dans un article écrit par l'un de ses amis journalistes, on peut lire
« L'autopsie du corps de Sindelar n'a fait qu'augmenter la perplexité des enquêteurs. On a bien constaté, en effet, les traces d'acide carbonique, mais en quantité insuffisante, assure-t-on, pour avoir pu déterminer la mort. La police a procédé à un examen minutieux des cheminées de l'appartement, ainsi que des tuyaux de canalisation, sans qu'aucun indice ne puisse fournir d'explication. »
Par ailleurs, à en croire une note de la Gestapo, Matthias Sindelar, ses amis et sa famille étaient suspectés d'être des nationalistes pro-juifs, sociodémocrates. Ils étaient donc étroitement surveillés. Le courage et la défiance de Sindelar vis-à-vis des Allemands ont-ils précipité sa mort ? Pour les proches du footballeur, la thèse de l'assassinat reste la plus plausible. Mais pour Wolfgang Mattertaner, historien et biographe de Sindelar, la vérité est ailleurs.
Pour moi, il est clair que Sindelar s'est suicidé. Parce qu'il ne pouvait plus jouer au football, sa vie n'avait pour lui plus de sens. À partir du moment où il n'a plus pu s'exprimer à travers ce jeu, par son interprétation du jeu, il a dû se résoudre au suicide.
Si la thèse de l'accident semble peu probable, celle du suicide l'est encore moins. Après tout, Matthias Sindelar aurait pu poursuivre sa carrière à l'étranger. Et dans la vie, comme sur le terrain, tout serait allé bien. Et il le savait, rien n'est jamais perdu d'avance. Au lendemain de sa mort, et une fois la nouvelle rendue publique, des voix s'élèvent pour réclamer des funérailles officielles, parmi lesquelles celle d'Egon Ulbrich, secrétaire de l'Austria Vienne de 1933-1956.
Le maire a dit, vous voulez des funérailles officielles ? Mais en fait, il y avait un problème. Il a dit, écoutez, je sais que Cindy le méritait, mais selon les règles nazies, une personne ayant été assassinée ou s'étant suicidée ne peut obtenir des funérailles d'État. Donc, on a dû faire disparaître les éléments criminels de son dossier. On a trouvé quelqu'un, un grand type, un nazi, mais un gars sympa. Il a accepté de faire certifier la cause de la mort comme accidentelle. Un accident domestique, au gaz carbonique.
Pour que Sindelar ait droit à des funérailles grandioses, ses amis ont donc accepté d'étouffer les suspicions d'assassinat en établissant une bonne fois pour toutes la cause de la mort du couple comme accidentelle. Quoi qu'il en soit, le jour de l'enterrement, c'est une marée humaine qui assiste à l'événement au cimetière central de Vienne. 15 000 personnes se rassemblent autour de sa tombe, à quelques pas de celle de Beethoven et de Mozart. Chacun vient faire ses adieux au joueur, devenu une icône de la résistance face à l'horreur nazie, un martyr de la Seconde Guerre mondiale. Sa mort en 1938 lui aura en tout cas évité d'assister plus longtemps à la déliquescence de son pays, l'Autriche, présentée à tort en 1945 comme la première victime de l'Allemagne nazie. En réalité, la majorité des Autrichiens se sont fourvoyés dès les années 30 en aspirant à rejoindre le Reich. À bien des égards, l'Autriche est devenue le laboratoire des politiques anti-juives de l'Allemagne nazie et de nombreux Autrichiens ont activement participé à organiser la Shoah. Kaltenbrunner, Eichmann, Sesinkart, mais aussi Alois Brunner, le tristement célèbre boucher de Drancy, ou encore Odilo Glotnik, qui a créé le premier camp d'extermination en Pologne, où 600 000 personnes ont été assassinées, tous étaient Autrichiens. Alors, on peut se poser la question, comment Sindelar aurait-il survécu à la complicité aveugle de son peuple ? Il partage cela avec son immense compatriote, cette conscience qu'était Stefan Zweig, qui, comme lui, voyait dans le destin mortifère de son pays l'échec d'une civilisation, et lui s'est suicidé. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Sindelar, conscience et ballon rond, comme quoi s'appelle ensemble. Bonjour Olivier Margot.
Bonjour.
Vous avez été l'un des rédacteurs en chef du journal L'Équipe pendant 25 ans. Vous êtes aussi, et surtout, invité ex-qualité, l'auteur du roman L'Homme qui n'est jamais mort, paru aux éditions Jean-Claude Dattès en 2020, qui a été beaucoup cité dans le récit. On a puisé un peu dans vos écrits, livre dans lequel vous retracez la vie de Matthias Sindelar. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre à son sujet ? Alors, c'est vrai que la réponse est dans la question, on vient de le faire, l'histoire est passionnante, mais encore.
Alors, d'abord, j'avais lu quelques pages de journaux madrilènes où il était question de cet homme, Matthias Sindelar, dont personne ne connaissait même le nom.
C'est vrai.
Et puis, on est parti là-dessus et moi, je suis allé à Vienne immédiatement. Et il se trouve que j'ai rencontré Wolfgang Madertaner, l'homme des archives de Vienne, l'homme des archives de toute l'Autriche, et qui est un homme absolument formidable. Et Madertaner m'a ouvert presque tout de suite la porte de la chambre où était mort Sindelar, ainsi que sa dernière maîtresse. Et ça, c'était tout de suite quelque chose se passait, et quelque chose de formidable. Et effectivement, Matthias Sindelar a été, je dirais, le héros absolu. Ouais. Il savait où est-ce qu'il allait. Il le savait. Il a tout fait pour rester, pour aller à Berlin, pour jouer à Berlin avec des types qui voulaient le tuer, tous. Et ils ont gagné 2-0, Matthias, encore plus fort. Mais c'était un homme d'une qualité dont on n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Quand il jouait au football d'une manière sublime, incroyable, que personne n'avait connue encore, les grands artistes de Vienne le faisaient venir pour parler. Pour parler de choses extrêmement délicates, des toutes petites choses. Mais comment ce jeune garçon, qui n'était rien, a pu parler du minimalisme à Vienne ?
Ouais.
C'est merveilleux.
Puis c'est la tête et les jambes, il y a un côté
la
fascinant.
Tête et les jambes.
Parce que c'est un footballeur. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas connu beaucoup d'intellectuels dans le football, mais il y a des gens qui ont une conscience, il y a des joueurs qui ont une vraie conscience. On en parlera d'ailleurs. Quand Sindelar commence à jouer en club, donc la place du football autrichien à l'époque est très importante. Ça fait partie des grandes équipes avec l'Italie. Il y a l'Uruguay aussi à l'époque, hein, c'est ça. C'est une grande équipe.
une grande équipe, c'était une équipe considérable. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup lors du match Angleterre-Autriche. Alors là, qui était le match des matchs. Mm. Angleterre-Autriche, c'était la première fois que l'équipe d'Autriche allait jouer contre l'Angleterre en Angleterre. Et là, il y a plein de bateaux qui veulent arriver voir ce match à Stamford Bridge.
Ouais.
Et c'est une merveille.
Il faut rappeler aux auditeurs que cette époque de football, c'est une époque où les pays de la Mitteleuropa sont forts. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ils ont du mal, ça rame hein, les ex-pays de l'Est. Là, on est vraiment au cœur du football. La Mitteleuropa, c'est vraiment le football.
Ah oui. La grande équipe de
Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie.
C'est bientôt. La Tchécoslovaquie qui sera formidable. Enfin, et tout ça, il y a toujours Sindelar dans la tête des gens. Quoi, parce qu'il est... C'est quelqu'un d'autre, quoi. C'est un personnage inouï. Et, dommage qu'il soit mort, bien sûr. Mais il avait une qualité, il avait une il était d'une gentillesse incroyable aussi.
Et quand vous dites dommage qu'il soit mort, effectivement, on pense au regret, si on veut faire quelques uchronies, selon lesquelles il aurait pu briller aux Coupes du Monde 34-38, puis peut-être, non, après ça faisait 50, il aurait été trop vieux pour jouer. Oui. Voilà, c'est ça aussi, on a été privé d'un
beau c'est l'Italie, c'est l'Italie. Ils doivent être champions du monde, ils doivent l'être. Sauf que, il y a quelques deux trois choses qui vont. Bah, d'abord, Sindelar, il se fait descendre tout de suite.
Bah, les Allemands sont habitués, ils ont fait pareil avec Puskás dans les années 50. Hein.
Exact.
Ils avaient un Mozart du football, ils se sont dit celui-là, on va lui casser la jambe, on va être tranquille.
Bah voilà.
Et ils ont gagné la Coupe du Monde comme ça.
Et là, pareil.
Et oui. Ce qui est saisissant dans cette histoire, c'est de voir à quel point le destin de ce joueur, Sindelar, est intrinsèquement lié aux événements politiques de son époque. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'était un militant social-démocrate, un résistant, et qu'il se positionnait comme ça, ou est-ce qu'il fallait quand même en tant que footballeur ne pas trop la ramener, si je puis dire, en politique?
Non, je crois qu'un social-démocrate, je pense que c'est les mots en tout cas. Et puis il y a tous les Tchèques qui sont là et qui les font et qui lui donnent toute liberté de parler, de voilà. Et c'est quand même un personnage stupéfiant. Il sort de rien. Et tout le monde veut le voir, veut l'avoir, veut le toucher. C'est incroyable. C'est incroyable.
Les grandes stars de l'époque, en Italie, il y a Meazza, par exemple. Mais c'est pas la même chose. Ce sont que des footballeurs, c'est ça. Il est le seul comme ça.
Oui.
À l'époque.
Oui. Meazza aurait pu être un autre Sindelar, en fait.
Ah bon? Pourquoi?
Bah parce que c'était un homme qui réfléchissait beaucoup, qui parlait très bien. Donc il aurait pu, mais là franchement contre les Italiens c'était pas possible.
Bien sûr.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Je rappelle à nos auditeurs et à vous, Olivier Margot, ça va vous intéresser, que nous avons consacré une affaire sensible à la Coupe du Monde en Italie, justement. Et à tout ce qu'a pu faire Mussolini pour faire pression et gagner sa Coupe du Monde. Alors je vais vous poser la question évidemment incontournable, Olivier Margot. À votre avis, Sindelar a été assassiné ou pas?
Ah, pour moi, il n'y a aucun doute. Tous les gens que j'ai pu voir, et j'en ai vu beaucoup... ont tous dit la même chose. Il a été assassiné. Tous. Il n'y a pas des points-virgules. Il n'y a pas de « Ah bah tiens, on pourra aller dans un autre hôpital ». Non, non. Tout le monde a dit « Il a été assassiné ».
Et la méthode de l'intoxication au gaz, évidemment, passait facilement, puisqu'il y avait beaucoup d'accidents de ce genre
à l'époque. Pour cause, puisque c'était sans arrêt qu'il y avait des problèmes avec le gaz. Donc oui, il est mort dans des conditions... terrible, mais quel... voilà. Il est toujours là, quoi. Cet homme est toujours là.
C'est assez fascinant parce que je vous sens ému. Mais comme si vous l'aviez connu personnellement, mais c'est bien, c'est beau.
Je suis très ému. Ouais. Je suis très ému et je vous trouve absolument remarquable pour parler dans, parce que c'est quand même une situation très complexe, immensément complexe. Mais par exemple, pour vous donner une idée du personnage, mais vous le savez bien sûr, mais bon, lorsque les Allemands entrent à Vienne. Les Allemands exigent que le président de l'Austria de Vienne soit là, quand même, ça commence à jaser dans les rangs. Et le krach des Allemands exige que tous les joueurs qui sont là ne serrent plus jamais la main au patron de l'Austria de Vienne. Et là, Sindelar prend la parole et dit « Moi, monsieur, je vous saluerai toujours. » Et là, il y a tous les Allemands autour de lui, avec les mitrailleuses. Et le type a dit ça.
Ouais, c'est l'homme de courage par excellence.
Ah bah, l'homme de courage par excellence, exactement.
Alors, les enjeux sont pas les mêmes, heureusement, mais Mbappé s'est exprimé récemment sur la situation politique en France. Lilian Thuram s'était beaucoup exprimé. Rocheteau, en son temps, 1978, Coupe du Monde. Quel est votre regard, quel regard posez-vous sur les footballeurs qui s'expriment en politique? Est-ce que vous trouvez que c'est leur rôle ou pas?
Moi, je trouve que c'est leur rôle. Toute la famille Thuram, par exemple, et c'est quand même des gens assez éblouissants, hein, je dois dire. Ils sont formidables. C'est une intelligence. Moi, je trouve que c'est très bien qu'ils parlent. Et on arrive pour les Jeux Olympiques, et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont parler de tout ce qu'ils ont sur le cœur aussi.
Alors, les enjeux n'étaient pas les mêmes non plus en 1978, mais racontez-nous, Rocheteau, qui voulait pas aller. Enfin, il est obligé d'y aller, il était pas à l'aise.
Non, il n'était pas à l'aise. Aucun d'entre nous n'était à l'aise. Ça, je peux
vous avez couvert la Coupe du Monde 78.
Oui, oui, quelque peu, pas beaucoup, mais quand même, c'était... On comprenait que telle femme avait disparu, telle autre avait disparu. Enfin, on comprenait. On comprenait. Je crois que il y a eu, enfin après la Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde de Zidane, il y a eu un match là-bas en Amérique du Sud. Et là ça s'est passé moyennement, très très moyennement. Donc il y avait Lisa Razou avec moi, on était 4 ou 5, et puis des journalistes de là-bas se précipitaient pour qu'on puisse parler, enfin bon. Et puis là Lisa Razou a eu cette phrase formidable de force, quoi. Il a dit « On va parler de tous ceux qui ne sont plus. »
Et bien, ça sera le mot de la fin. D'accord? Parce que c'est la fin de l'émission. Merci, Olivier Margaux.
Merci à vous, c'était magnifique.
Merci.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir. C'était Mathias Sindelar, Affaires Sensibles, aujourd'hui. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Florian Dory-Minier. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Bettina Lioré, Marjolaine Corr, Odile Conseil, Jean Bulot et Guillaume Balandras. Chargé de programme, Rebecca Denante. Coordination, Franck Cognard. Rédaction, chez Franck Cognard. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Réalisation, Hélène Bizio, Frédéric Milano et Stéphane Combe.